D'autant plus qu'on sait aujourd'hui par des études que le plastique recyclé génère 2,3 fois plus de microparticules de plastique, que ces plastiques recyclés, c'est des éponges à polluants avec des substances chimiques, c'est des cocktails de substances chimiques qu'on ingère. Et ça, on ne peut pas l'ignorer en fait.
Aujourd'hui, c'est Rosalie Mann que je reçois, la fondatrice de Nos Morts Plastiques. Bonjour Rosalie.
Bonjour Géraldine.
Merci d'avoir accepté cette interview.
Merci à vous.
On a préparé cette interview au téléphone et c'est vrai que vous êtes passionnée de votre sujet. On est dans un combat. On est dans un combat pour supprimer le plastique.
Au moins dans notre quotidien.
Alors justement, dites-moi, quel a été pour vous le déclencheur ?
Alors, ma prise de conscience, elle a été assez tardive. Elle est liée à un problème de santé de mon fils, en fait. Tout simplement parce qu'il est né avec des problèmes chroniques d'asthme. Et avec le temps, ça s'est amplifié. Et donc, on passait énormément de temps aux urgences. Et une nuit où son état s'était aggravé, etc., il y a un médecin qui est venu me voir et qui m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. C'est normal, c'est la pollution. Et le « c'est normal, c'est la pollution » dans la même phrase, pour moi, ça a été un électrochoc. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on soit dans une société où on tolère que la pollution puisse agir sur la santé de nos enfants? Et il y avait tellement d'enfants malades, il n'y avait pas que mon fils dans ce service. Et ça a été vraiment mon électrochoc. Alors j'aurais adoré vous dire que c'était une réflexion profonde due à tout ce qui se passe dans l'environnement, mais malheureusement j'étais dans un tourbillon de la vie, comme beaucoup de gens, préoccupée par mes soucis personnels, mes soucis de professionnels, etc. Très très éloignée finalement des questions environnementales. Et pourtant, si on s'occupe pas déjà de notre maison, tout ça n'a plus vraiment aucun sens. Et c'est là où j'ai décidé d'agir immédiatement, en fait, de me dire comment je peux, à mon échelle, changer ça. Changer que les enfants soient malades, ces asthmes chroniques qu'ils ont dès leur naissance, c'est pas normal. Le fait que des enfants naissent prépollués, c'est pas normal, etc., etc.
Et donc là, vous vous êtes mis en action et vous m'avez dit « j'ai agi ». Immédiatement, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?
Alors, j'ai tout de suite contacté une de mes amies qui s'appelle Alexandra Cousteau, qui m'a mis en contact avec différents experts pour comprendre déjà. Parce que quand vous voulez, je pense que quand on veut agir, le prérequis à l'action, c'est la compréhension. Il faut comprendre le sujet et le comprendre dans son entière aspect, pas juste une partie en surface. Et souvent, les gens ne regardent la pollution plastique qu'en surface. On pense souvent que la pollution plastique, ça commence au moment du déchet. Mais c'est faux. Le plastique et la pollution plastique est une pollution invisible aujourd'hui qui s'infiltre dans notre air, dans notre eau, dans le sol. Ça commence dès la production du plastique et tout au long du cycle de vie d'un plastique. Et ça, je l'ai appris avec les scientifiques, les experts que j'ai pu rencontrer, les études qu'on m'a remontées. Et j'ai été horrifiée. Je me suis dit, c'est pas possible. On est aujourd'hui, quand on regarde la société dans laquelle, cette société moderne, dans laquelle on utilise tellement de plastique dans tout et n'importe quoi. Vous avez les plastiques évident comme la bouteille d'eau, le sac en plastique, etc. Mais après, vous avez des plastiques cachés. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple une brosse à dents en bambou, la plupart des brosses à dents en bambou ont tous des poils faits en nylon. Et il y en a plein dans les chewing-gums, on en a dans les serviettes hygiéniques, dans les tampons, dans les sachets de thé, etc., etc. Donc c'est très pernicieux en fait, parce que le plastique, on en a partout quasiment, et on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer.
Donc vous vous êtes informé avant de vous mettre en action. Et avec toutes ces informations, ces études, qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Quelles actions vous avez menées?
Suite à toutes les études qui m'étaient remontées, j'ai décidé de fonder Noir en Plastique et de, à travers l'association, créer des campagnes de sensibilisation pour vulgariser les études scientifiques, de façon à ce que les gens comprennent assez rapidement de quoi il en retourne et surtout qu'on comprenne ce que c'est que le microparticule de plastique. Parce que quand j'ai démarré No More Plastic, les microplastiques, on n'en parlait pas du tout ou quasiment peu ou dans des magazines spécialisés uniquement. Et en 5 ans, on a œuvré à ce que tout le monde comprenne que le plastique se dégrade en microparticules, en nanoparticules. Donc les microparticules, c'est des particules de plastique d'à peu près 5 mm et les nanoparticules, c'est encore plus petit, invisible à l'œil nu. Et il faut savoir que les nanoparticules, c'est justement ceux qui sont dans l'air, qui pénètrent les organes de la peau, les organes, la peau, etc. Et c'est ça le danger réel de la pollution plastique. C'est pas uniquement les déchets qui sont dans l'environnement. Et donc, en creusant, je me suis rendu compte que la pollution plastique, c'était avant tout une question de santé publique et que les gens devaient être mis au courant de ça. Et d'autant plus les femmes, que les femmes sont beaucoup plus impactées par la pollution plastique. Alors, vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que le métabolisme d'une femme crée beaucoup plus d'œstrogènes à des moments clés de sa vie, qui sont la puberté, les menstruations, la grossesse, la lactation et la ménopause. Donc quand vous calculez sur la vie d'une femme, c'est plus de 50% de sa vie. Et à ces moments-là, on est beaucoup plus vulnérable face aux perturbateurs endocriniens qui sont présents dans ces microparticules de plastique qu'on ingère.
C'est très très clair et merci de parler du cycle de la femme puisqu'on en a parlé il y a peu en septembre avec un gynécologue obstétricien. Donc c'est important, on rappelle que durant le cycle, tous ces cycles, les cycles de la femme, eh bien là c'est important d'entendre qu'on est plus à même et plus réceptive, on va dire, à tous ces perturbateurs endocriniens.
Absolument.
D'accord. Quand vous dites, en fait, campagne de sensibilisation et vulgarisation, est-ce que vous avez été entendu des institutionnels? Est-ce que, au niveau du ministère de la Santé, on vous reconnaît aujourd'hui?
Non, malheureusement pas encore, mais je sais qu'ils nous entendent, oui. Ils nous entendent, après de là, être reconnus pour le moment. Moi, je pense qu'il faut faire de ce problème une cause nationale. C'est-à-dire que la pollution par les microplastiques, aujourd'hui, ça concerne tout le monde, pas seulement les femmes. Évidemment, les femmes sont plus vulnérables, mais les femmes, les enfants, les hommes, on est tous impactés. Et les maladies qui sont liées à cette pollution sont relativement graves. C'est l'obésité, c'est l'asthme, les problèmes respiratoires, les cancers du sein, les cancers du côlon, l'infertilité, l'endométriose. Tout ça sont des maladies qui sont liées à ces perturbateurs endocriniens présents dans les différentes sortes de plastiques.
Où en êtes-vous aujourd'hui de votre démarche? C'est-à-dire que vous avez pris votre cheval de bataille, vous avez créé donc votre association, vous menez des campagnes de sensibilisation. Où en êtes-vous aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, en 5 ans, on a permis à ce que les microparticules de plastique et les effets délétères du microparticule de plastique soient plus reconnus. Mais on a encore énormément de travail, notamment sur le recyclage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se tourne vers le plastique recyclé comme étant la solution à cette pollution plastique.
Je vous avais interrogé durant notre préparation et je vous avais demandé si vous étiez en contact avec l'ADEME. Et vous m'aviez mentionné le fait que l'ADEME, en fait, repose toutes ses actions anti-plastique sur le recyclage.
Alors, sur le recyclage et le réemploi. Mais le réemploi, c'est la plupart du temps, malheureusement, du réemploi de plastique. Alors évidemment, c'est pas que ça, mais réemployer un plastique, c'est aussi pernicieux parce que ça fait croire aux gens que c'est une solution alors que ça n'en est pas. Tout simplement parce que quand vous consommez dans du plastique, vous ingérez de l'eau, des aliments qui sont contaminés par des microparticules et des nanoparticules de plastique. Donc, à mon sens, ça n'est pas une solution.
Et pourtant, c'est ce qui est mis en avant aujourd'hui en France, toutes ces actions de recyclage. Alors, comment allez-vous faire, vous, pour dire haut et fort qu'il faut supprimer le plastique plutôt que de le recycler ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ?
Alors, on participe à des conférences internationales pour faire entendre notre voix. On a des ambassadeurs dans le monde entier, dans différents corps de métiers et qui font en sorte de mobiliser leur communauté. Je pense que ce combat, on le mènera pas seul. Je le mène pas seul. J'ai une équipe formidable. J'ai des ambassadeurs formidables qui nous suivent, qui font passer, qui sont le relais de cette information. Et j'espère que les femmes se sentiront plus concernées vu que leur santé est en danger.
Quels sont les pays dans le monde les plus concernés ou les plus investis contre le plastique ?
Alors, le problème dans le monde et même au niveau européen, c'est qu'ils sont tous en train d'investir des milliards dans le plastique recyclé. Et il faut bien comprendre que si on veut réduire notre exposition à la pollution plastique, il faut réduire la production. Mais il faut aussi réduire le recours au plastique recyclé. Parce que quand vous remettez en circulation un produit qui est toxique, vous ne résolvez rien. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui par des études que le plastique recyclé génère 2,3 fois plus de microparticules de plastique, que ces plastiques recyclés, c'est des éponges à polluants avec des substances chimiques, c'est des cocktails... De substances chimiques qu'on ingère. Et ça, on ne peut pas l'ignorer, en fait. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est très important, quand on agit, de surtout comprendre de quoi il en retourne. Quel est le problème, réellement ? Le problème, c'est pas uniquement le déchet. On pense toujours que le plastique, c'est un produit précieux qu'on va pouvoir remettre en circulation parce qu'on manque de ressources, qu'il est préférable de réutiliser cette ressource précieuse, etc. Mais non, pas pour le plastique. Le bois, le verre, tout ça, oui, bien sûr qu'on peut les recycler et faire en sorte qu'on utilise moins les ressources de la planète. Mais concernant le plastique, ça n'est pas le cas.
Parce qu'il est d'autant plus friable.
Exactement, il est d'autant plus friable. Et l'autre point important et que les gens ne mesurent pas, c'est que plus on va utiliser de plastique, plus il va être intéressant commercialement. Parce qu'un matériau qu'on utilise dans des quantités exponentielles, il est forcément très concurrentiel. Et du coup, toutes les industries s'engouffrent dans... Si vous avez à choisir entre un produit fait à base de plastique qui va vous faire des marges beaucoup plus importantes qu'un produit naturel, évidemment, en tant que chef d'entreprise, et surtout avec la crise économique qu'on traverse, va privilégier l'utilisation du plastique. Donc c'est très pernicieux de continuer à produire autant de plastique.
Vous aviez des chiffres à me donner en matière de production de plastique.
Oui, tout à fait. Alors, sur les chiffres, on est en fait, sur la production de plastique, on produit à peu près 460 millions de tonnes de plastique par an et on nous annonce 600 millions de tonnes en 2030 dans le monde. Et la question, c'est comment, avec un éveil des consciences, parce que depuis 5 ans, depuis qu'on travaille à éveiller les consciences justement sur les impacts du microplastique, comment c'est possible qu'on augmente la production de ce matériau? Il devrait descendre et non pas augmenter. Donc il y a un vrai problème et l'une des raisons, c'est que quand vous parlez de recyclage, vous remettez forcément du produit vierge dedans. Donc aujourd'hui, le fait d'investir et d'aller vers du recyclage du plastique, c'est bénéfique pour l'industrie du plastique.
Et puis, on a aussi deux industries hyper consommatrices de plastique. Et parfois, on n'en a pas conscience. C'est l'industrie du textile et l'industrie de l'emballage.
Absolument. Les deux industries les plus polluantes en termes de production de plastique et donc d'émissions de microparticules sont les emballages et le textile. Et aujourd'hui, si on décidait de ne plus utiliser de plastique dans ces deux industries, on réglerait déjà plus de 50% du problème.
Vous me disiez que ce n'est pas seulement quand je lave mes vêtements que que je pollue en fait. C'est aussi quand je porte mon vêtement qu'il y a des micro-particules donc qui s'évaporent dans l'air. C'est ça ?
Tout à fait. Et souvent, l'industrie du plastique met la faute sur le consommateur. C'est-à-dire, c'est le consommateur qui est responsable de cette pollution plastique. C'est lui qui jette les choses dans la nature, etc., etc. Mais la réalité, elle est tout autre part. Aujourd'hui, quand, par exemple, vous portez un vêtement en plastique, vous générez des microparticules de plastique qui vont dans l'air, mais aussi quand vous le lavez. Donc, le textile, aujourd'hui, génère des microparticules de plastique, aussi bien au moment du lavage qu'au moment ne serait-ce que de l'usure ou le fait de le porter. Un autre exemple précis, on nous parle beaucoup de marques qui font des baskets en plastique recyclé. Et je vois aussi beaucoup de gens qui courent pour des bonnes causes avec ces baskets, etc. Mais en fait, à chaque fois que vous courez avec ces baskets-là, la semelle en plastique crée par l'abrasion sur le sol, des micro-fragments de plastique qui restent sur le sol et qui, aux prochaines pluies, vont terminer dans l'océan et si ce n'est dans notre air. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à avoir au niveau des consommateurs, parce que le consommateur, lui, il ne peut pas tout et il n'est pas responsable de ça. Aujourd'hui, même si on voudrait consommer moins de plastique ou plus de plastique du tout, on en serait pratiquement incapable, puisque la plupart du temps, par exemple, si je vous prends l'exemple des sachets de thé, ce n'est pas mentionné dessus qu'il y a du plastique. Il n'y a pas de mention de vos sachets de thé contiennent du plastique. Et ça, c'est le cas aussi dans la cosmétique. Il y a énormément de gens qui ne réalisent pas qu'ils sont en train de consommer du plastique.
Alors, on a une bonne nouvelle quand même, et on tenait à vous la partager, c'est que les paillettes vont être interdites à compter du 1er janvier 2024. C'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Après, faut-il encore que ça soit suivi réellement des faits ? Mais oui, absolument, les choses avancent. Les gens se rendent compte qu'effectivement, ces microparticules sont un problème, mais c'est des pas de souris qu'on fait. Et aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. Et si on continue de promouvoir, de proposer le 100% plastique recyclé comme un devoir, parce que c'est ce que fait aujourd'hui la Commission européenne. La Commission européenne a voté 100% de plastique recyclé pour 2030. 2030, c'est demain. Dans les emballages, etc. Sachant que le secteur de l'emballage est l'un des secteurs les plus polluants. Pourquoi donc oblige-t-il ce secteur-là précisément à utiliser 100% de recyclage ? C'est pas possible. Donc, c'est un vrai souci. Aujourd'hui, la Commission européenne vise 65% de plastique recyclé dans les emballages. Et après, bon, il y a le reste. Effectivement, dans les emballages, il n'y a pas que du plastique. Vous aurez du carton, du bois, etc. Mais la plupart du temps, c'est du plastique.
Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que votre fils va mieux ? Est-ce que pour ces enfants malades, justement, de la pollution plastique, est-ce que aujourd'hui on a des solutions ou pas du tout ? Moi, j'entends bien votre combat anti-plastique, mais comment faire pour protéger nos enfants ? Est-ce qu'on a le moyen de protéger nos enfants aujourd'hui dans notre société ?
Alors, protéger les enfants, oui, c'est bien sûr que c'est important. Alors moi, ce que je conseille souvent à mes amis, parce que quand on a des enfants, on achète forcément des jouets, et les jouets, c'est du plastique. Là, on va arriver vers les fêtes de Noël, et évidemment, tout parent va acheter des jouets dans lesquels il y a du plastique, et même ceux qui sont en bois, ne vous trompez pas, la plupart du temps, c'est du bois fait à base de plastique, etc. Donc, c'est assez pernicieux tout ça, mais ce qui est important, c'est que l'opinion publique, les citoyens prennent conscience du problème pour faire pression sur les gouvernements pour que enfin il y ait des lois qui régulent cette production de plastique dans des industries comme le jouet, par exemple. Nous, on demande vraiment avec No More Plastic, justement, auprès de ce traité international contre la pollution plastique dont les conclusions sont attendues pour fin 2024, à ce que le plastique soit retiré ou interdit de toutes ces industries qui sont le jouet, enfin tout ce qui est un contact direct et quotidien avec les enfants. Donc quand vous avez des enfants, pour les protéger du plastique, eh bien malheureusement on n'a pas vraiment beaucoup d'alternatives. La seule chose qu'on peut faire, c'est aérer un grand maximum quand ils jouent par exemple avec des jouets en plastique, leur laver les mains juste après. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Surtout ne jamais jamais redonner un ancien jouet à un autre enfant. Les jouets seconde main quand ils sont en plastique, c'est un cadeau empoisonné en fait, parce que la plupart du temps, plus un plastique vieillit, plus il est toxique et dangereux. Donc quand je vois avec par exemple l'explosion du phénomène Barbie, des gens prêts à redonner leurs anciennes Barbie à leurs enfants, bah surtout ne faites pas ça. C'est une manière de protéger nos enfants face aux substances chimiques et aux perturbateurs endocriniens qui sont présents dans ces jouets.
Rosalie, vous êtes sur le podcast Balance ton héroïne. On s'éloigne du sujet, on sort du sujet, mais moi j'avais envie de savoir, quelle est la femme qui vous inspire ? Qui est votre héroïne ?
Alors moi j'en ai deux, j'ai ma mère et ma grand-mère. Alors ma mère, parce qu'en fait elle a quitté son pays qui était occupé par les Russes pour nous permettre d'avoir une éducation différente et surtout avoir de la liberté d'expression et de pensée. Et ma grand-mère, parce qu'elle a participé à ce que le mur de Berlin tombe. Et c'est pour moi un exemple, parce que ça me permet tous les jours de me dire que même quand que tout est possible, en fait, que même quand le monde entier croit que quelque chose n'est pas possible, eh bien c'est possible.
Super. Et je trouve que c'est une très belle fin de cet entretien. Merci beaucoup, en tout cas. On va vous suivre, on va suivre vos actions. J'invite toute l'audience à aller sur votre site internet, votre website No More Plastique, et puis à vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes active sur Instagram, mais aussi sur LinkedIn. Merci de cet entretien et on va suivre votre aventure.
Merci beaucoup Géraldine pour cette invitation.
Merci. À bientôt.